Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Roland prêchera à partir de la Genèse et nous entendrons les différents textes de la Genèse pendant la prédication, mais nous allons lire deux textes qui vont soutenir aussi cette prédication maintenant. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, 18 à 23 du chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Jusqu'ici la première lecture. Et la deuxième, nous allons lire donc l'évangile selon Jean à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu.
Merci pour vos prières, pour vos prédicateurs. Nous en avons tellement, tellement besoin. Merci. Qui que nous soyons, souffrant d'une infirmité ou bien portant très instruit ou peu instruit, costaud ou gringalet, nos sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, et notre intelligence, font de nous des témoins privilégiés du Dieu invisible au travers de ses ouvrages. Ce témoignage manifeste de Dieu dans la création nous dérange, car il signifie que nous aurons des comptes à rendre à quelqu'un, notre Créateur, plutôt que de pouvoir conduire notre vie à notre guise. Ainsi, les hommes cherchent à faire disparaître cette vérité gênante, grosse comme une maison, que dis-je, grosse comme un univers. par leur science. Ils l'enferment, ils la mettent dans un sombre cachot, qu'ils nomment crédulité, ou niaiserie, ou bondieuserie, ou évolutionnisme, ou créationnisme ridicule, pardon. Et ils inventent des refrains qui nous ressassent dès l'enfance. Tout a commencé par une gigantesque explosion. Sur des milliards d'années, la matière ainsi libérée a donné lieu à la vie, totalement par hasard. Et la diversité des espèces vivantes provient de l'évolution aléatoire des formes de vie primitives. Même chez beaucoup d'intellectuels chrétiens, ces refrains mensongers qui tournent en boucle en arrivent malheureusement à obscurcir la vérité que Dieu nous a révélée dans sa parole, la Bible. Par respect, beaucoup trop grand pour leurs équivalents scientifiques, les théologiens permettent à la science des hommes d'empiéter toujours plus, autant qu'elle en a l'arrogance, sur le terrain qui n'appartient qu'à Dieu. Hébreux 11.3 nous dit « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. » Explicitement, ce verset affirme que puisque toutes choses ont été formées par la parole de Dieu, invisible, il est impossible à l'homme de découvrir l'origine, la provenance des choses existantes par l'observation des choses existantes. En bref, l'univers ne contient pas sa propre explication. En méditant les 34 premiers versets de la Bible, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, et soyons émerveillés de la gloire de notre Dieu, des trésors de sa sagesse, de la finesse de sa puissance illimitée, de l'immensité de sa bienveillance envers notre terre, envers tout ce qu'il habite et tout ce qui l'environne. Puis dans de brefs points de conclusion, nous verrons ce qui résulte de notre ingratitude envers notre Créateur et comment sortir de cette situation terrible dans laquelle nous sommes inexcusables. D'où le titre de cette prédication, Création, Rébellion, Réconciliation. Création, Rébellion, Réconciliation. Notre premier point, Dieu, le Créateur glorieux et très généreux. Dieu, le Créateur glorieux et très généreux. Premier verset de la Bible, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier verset de la Bible, la parole de Dieu, affirme de façon limpide que Dieu est le créateur de tout, du monde invisible du ciel et du monde visible, la terre, et d'après les versets suivants, l'univers entier qui l'environne. C'est la création de toute chose à partir de rien, avec rien. Les théologiens disent « création ex nihilo ». La narration divine qui suit ce premier verset, révélé à Moïse, se concentre sur le monde visible, notre monde, et nous fait voir que Dieu dicte souverainement tout le déroulement de la création en six jours. Le premier acte créateur aboutissant à une terre informe et vide est suivi d'autres dans lesquels Dieu façonne toute chose jusqu'à l'achèvement qu'il a décidé. Dieu n'est donc absolument pas le Dieu des lacunes qu'on invoquerait dans les quelques domaines que la science n'a pas encore pu expliquer. Comme on l'a entendu dans l'Écriture, en introduction. Mais il est important de le rappeler, toute l'activité créatrice de Dieu est absolument hors de portée de la science. Malgré ce qu'elle cherche tellement à nous faire croire, examinons maintenant, jour par jour, ce que Dieu lui-même nous dit de son admirable création. Jour 1, versets 2 à 5.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour.
Le verset 16 du psaume 139, qui décrit le début de la vie du bébé dans le sein de sa mère, est un magnifique parallèle avec le verset 2 que Timothée vient de nous lire. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux existe. » La terre est seule, tout le reste n'étant qu'un abîme enténébré. Elle est encore informe et vide, mais Dieu s'en préoccupe avec grand soin. Son esprit plane au-dessus d'elle, dans son état entièrement recouvert d'eau. Il s'en occupe comme un oiseau voltige au-dessus de ses petits. En effet, il ne la laisse pas dans cet état brut. Le Père s'exprime, crée la lumière et la sépare des ténèbres. En Jean chapitre 1, nous avons lu que la parole, l'expression de l'être du Père, c'est la personne du Fils unique, Jésus-Christ. Ainsi, en ce jour 1 de la création, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, dirige toute son attention vers son œuvre. En ce jour-là, après les ténèbres de la nuit, succède la lumière du jour. Depuis lors, cette succession, nuit-jour, soir et matin, aura lieu chaque journée. Les Juifs ont tout à fait raison en se fondant sur ce récit historique de Genèse 1 de commencer leur journée le soir. Et comme vous le verrez, chacun des six jours de la création se termine par ce refrain « Il y eut un soir et il y eut un matin ». Par cela, nous apprenons que ces jours sont tous égaux en durée et que ce sont exactement les jours que nous connaissons. Ce que confirme le quatrième commandement en Exode 20 lorsque le septième jour est mis à part comme jour de repos. Mais comparé aux six autres jours de la semaine initiale de l'univers. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un jour. Deuxième jour, versets 6 à 8.
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour.
En ce deuxième jour apparaît un nouveau refrain qui rythmera aussi notre récit. Il en fut ainsi, verset 7. C'est une description précise de la toute-puissance de Dieu. Il ne s'agit pas d'une toute-puissance arbitraire. Ce que Dieu veut se réalise entièrement. Le psaume 33, verset 9, l'exprime ainsi, « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Combien Dieu mérite d'être admiré et célébré par la louange de notre bouche. À propos de la bouche, avez-vous remarqué qu'avant même de créer l'homme, Dieu crée pour lui le langage. Il nomme l'étendue qu'il vient de faire et l'appelle ciel. Cette préoccupation anticipée de notre Créateur de nous doter d'une faculté si précieuse que celle du langage devrait nous remplir de reconnaissance. Avez-vous déjà remarqué la joie des enfants lorsqu'ils apprennent à parler? Leur visage s'illumine quand ils répètent un mot que nous leur avons dit et qu'ils constatent par notre réaction que nous avons compris ce qu'ils ont exprimé. C'est l'instant d'un vrai dialogue, d'une profonde communion qui naît entre un petit homme et un plus grand. Ces moments sont savoureux. Nous les devons à notre Dieu si bon. Au grand cadeau du langage humain se joint celui des nombres entiers et de là de toutes les mathématiques. Ce deuxième don vous fait-il moins plaisir? Avouons quand même qu'il nous est fort appréciable de pouvoir réserver 100 places au restaurant pour un repas de mariage ou de pouvoir créer nos confitures dans le buffet selon les années de leur confection. Cette double utilité des nombres entiers, de pouvoir exprimer très précisément une quantité ou de mettre des objets dans une certaine séquence que nous utilisons à tour de bras, fait partie de la création. Au terme du jour initial, il est dit « ce fut un jour », mesure de la quantité, de la cardinalité, comme disent les mathématiciens. Au terme du jour suivant, Dieu dit « ce fut un deuxième jour », ce qui permet de le mettre dans le bon ordre chronologique. Troisième jour, versets 9 à 13.
Dieu dit « que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent dans un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. » Il en fut ainsi. Dieu appela la terre la partie sèche et il appela la mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un troisième jour.
Première apparition d'être vivant en ce troisième jour. Les végétaux et apparition du refrain associé à tout ce qui vit depuis ce moment-là et jusqu'au sixième jour, selon son espèce. Dieu est très généreux et il fait en sorte que sa création le soit aussi. Toute la terre se couvre de verdure. Et puisque l'herbe et les arbres sont porteurs de semences, il y a renouvellement et multiplication constante. Avec ce verdict divin, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, dès le commencement, la création est stable et le bon ordre y règne à l'entière satisfaction de son auteur divin. Le respect des chrétiens qui se disent évolutionnistes, théistes, pour les scientifiques qui ont lancé et soutiennent ces folles idées, est réellement un crachat à la face de notre Dieu. C'est faire de lui, qui est la vérité, un menteur, au motif que beaucoup de grands cerveaux humains affirme le contraire de ce que Dieu dit explicitement. Pourtant, il n'est pas difficile de faire un examen sérieux de la situation, permettant de conclure avec le biologiste Jean Rostand que la théorie de l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. quatrième jour, versets 14 à 19.
Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer le jour et le petit pour dominer la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un quatrième jour.
Ce qui est très remarquable dans cette journée, la quatrième, c'est que tous les buts que Dieu vise par la création des astres sont au service de la terre. Deux fois il est dit qu'ils sont là pour éclairer la terre. Leur présence sert aussi de pendule qui sonne les jours et les années et les temps. Cette dernière expression désignant en hébreu les temps fixés pour les fêtes religieuses. On retrouve là avec joie notre Dieu prévenant et bienveillant qui pense déjà à la suite. Dieu confie aussi aux astres l'alternance de la nuit et du jour, avec un astre dédié au jour, le soleil, et un astre dédié à la nuit, la lune. Jusqu'à ce quatrième jour, Dieu assurait lui-même directement cette alternance. Toutes les étoiles furent aussi créées ce jour-là, c'est-à-dire 3 jours après la terre. Ça va? Vous me suivez? Vous me croyez? Ou plutôt, vous croyez que le texte biblique dit vrai? Mais, me direz-vous, et l'ami James? L'ami James Webb, que devons-nous en penser? Ce télescope ultramoderne, placé à un endroit très favorable dans l'espace, vient de commencer son activité et de nous fournir, par exemple, l'image de la plus vieille galaxie connue, apparue il y a 13,5 milliards d'années, soit seulement 300 millions d'années après le Big Bang, ce qui bat l'ancien record de vieillesse de 100 millions d'années. J'ai vu sur Internet cette photo, mais je n'ai pas vu le chronomètre qui marque les 13,5 milliards d'années. Malgré toute sa sophistication technique qui nous permet d'admirer l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, l'ami James est égaré sur une fausse piste. Il croit pouvoir reconstituer l'histoire de l'univers en observant l'univers, sur l'hypothèse que ce sont les lois physiques et chimiques qu'on observe maintenant qui ont toujours prévalu dans l'univers. Or, cette hypothèse, la Bible nous le dit bien en Hébreux 11.3 qu'on a déjà cité, est entièrement fausse. Pendant les 6 jours de la création, Dieu n'était d'aucune manière contraint par les principes physico-chimiques actuels. Le monde qu'il a formé l'a été par sa parole, c'est-à-dire par la personne de son Fils unique, Jésus-Christ. Et cette provenance de l'univers ainsi créé n'est nullement observable dans l'univers créé. L'Éternel a demandé à Job: où étais-tu quand je fondais la terre? L'ami James s'empresse de parler à sa place, tout excité. Éternel, j'étais là. Et l'Éternel de lui répondre: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissances? Job 38, verset 2. Cette connaissance est absolument hors de portée des humains. D'ailleurs, après les six jours de la création, Dieu a agi plusieurs fois de cette façon souveraine qui lui appartient en propre et qui est totalement affranchie des lois naturelles. Citons quelques exemples, mais que vous connaissez bien aussi. La journée qui a été prolongée pour permettre à Josué de vaincre les Amoréens. Le soleil qui recula de 10 degrés sur les degrés d'Ahaz, en signe que Dieu accordait 15 ans de vie supplémentaire à Ézéchias. La tempête apaisée, la résurrection de Lazare, etc. Réjouissons-nous, soyons émerveillés de voir le Seigneur se préoccuper de placer ce joyau qu'est la terre, ce dont témoignent bien les astronautes qui ont eu le privilège de la contempler depuis l'espace. Placer ce joyau de la terre dans un écrin grandiose, si approprié et si généreux. L'Éternel ne dira-t-il pas à Abraham, « Compte les étoiles si tu peux les compter ». Lui seul, qui en connaît le nombre, puisqu'il les a toutes faites, est autorisé à poser cette question. Demeurons fermes dans la foi en l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, en voyant dans ces versets ces soins particuliers accordés à notre planète bleue. Soyons bien certains qu'il n'a créé nulle part ailleurs dans l'univers de vie extraterrestre, et que les projets de colonisation de Mars reviennent à prendre une bouse de vache pour un gâteau au chocolat. 5e jour, versets 20 à 23.
Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre des oiseaux volent sur l'étendue céleste. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un 5e jour.
Connaissez-vous la Vnoge, cette rivière vaudoise 100% qui court avec des frissons parce que ça la chatouille, ces poissons, la Vnoge? Gilles, l'artiste de ce bien joli canton de Vaud, qui a rendu célèbre la Venoge par le poème qu'il lui a dédié, nous rappelle ce que nous venons de lire au verset 20. Dès le 5e jour de la création, Dieu s'est plu à chatouiller toutes les eaux par un grouillement d'êtres vivants. Une fois encore dans notre récit du commencement, s'affirme l'immense générosité de Dieu et sa joie de faire des largesses. Même des grands monstres marins sont créés. Laissons-nous impressionner par quelques caractéristiques des cétacés, la grande famille des baleines, et admirons avec crainte notre Dieu qui les a faites. Certaines, malgré leur taille énorme, se déplacent à la vitesse de croisière de 35 km/h et peuvent, si nécessaire, pousser des pointes à 65 km/h. Parmi elles, il y en a qui entreprennent un voyage annuel de 10 000 km, comme les oiseaux migrateurs. Quelques-unes composent de la musique, faite d'une succession cyclique de sons, basé sur plus d'une douzaine de règles musicales spécifiques. D'autres soufflent un jet de vapeur jusqu'à 15 mètres de haut. ou descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur, détenant ainsi le record de plongée sous-marine. Si nos poumons peuvent contenir entre 4 et 7 litres d'air, les leurs peuvent en aspirer d'un coup 3000. Les plus costauds développent une puissance de propulsion égale à celle de 10 de nos voitures moyennes. Elles ont le lait maternel le plus riche, avec 42% de matière grasse. Certaines ont une langue plus grande que 2 chevaux adultes et une aorte dont le diamètre atteint 50 centimètres. Tu me réjouis parce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. Psaume 92, verset 5. Sixième jour, verset 24 au verset 1 du chapitre 2.
Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée.
En ce dernier jour actif du Créateur, dans la première semaine de la création, d'importantes distinctions, séparations sont établies ou rappelées. Les animaux sont séparés selon leur espèce et même selon leur contexte de vie. L'homme est séparé de toutes les autres créatures, étant seul créé à l'image de Dieu, dans le but de dominer sur toute la terre et de la soumettre. L'homme et la femme sont distingués explicitement l'un de l'autre. On peut même dire, en se souvenant de ce qui a eu lieu les jours précédents, que la séparation est le grand principe du Créateur pour faire passer son œuvre de l'état brut original, informe et vide, à l'état final, ordonné et habitable. Comme son Créateur qui est un et trine, l'univers est un et pluriforme après toutes les étapes de distinction par lesquelles il a passé et qui lui ont apporté diversité, complémentarité, richesse et beauté. Nier ou vouloir effacer ces distinctions, c'est chercher à revenir à l'état informe et vide du début. Mais non, mais surtout pas, car c'est maintenant au sixième jour que tombe le magnifique verdict final divin. C'était très bon, verset 31. Après l'intense activité créatrice de Dieu, qui, si l'on reprend les verbes cités tout au long des six jours, crée, plane, dit, voit, sépare, appelle, fait, produit, place, bénit et donne. Qu'il est reposant ce verdict, qu'il est encourageant. La matière, le temps qui s'écoule, chaque créature dans sa finitude, tout cela est très bon au jugement de Dieu, qui est esprit infini, éternel. Et que la mission qu'il nous confie est captivante. De la part de Dieu, dont nous sommes l'image à sa ressemblance, c'est-à-dire dans sa conformité, dans sa dépendance entière, il nous faut dominer sur toutes les autres créatures et soumettre la terre. C'est là que la science retrouve sa vraie place, toute sa place. Dans le cadre de la réalité observable, des faits vérifiables, elle n'est jamais en opposition avec la foi, la parole de Dieu, car le témoignage de l'Éternel est véridique, psaume 19, 8. Un déluge universel a-t-il vraiment eu lieu? Oui, bien sûr, il y a des roches sédimentaires sur toute la terre, et ce souvenir est resté dans la conscience de nombreux peuples sur la terre. Le peuple des Hittites, plusieurs fois mentionné dans l'Écriture, a-t-il vraiment existé? Car pendant longtemps, il n'y avait aucune trace archéologique. Oui, bien sûr, car maintenant de nombreuses confirmations historiques de ce peuple ont été trouvées. Jésus-Christ est-il vraiment ressuscité? Pour sûr, les faits rapportés par les témoins sont irréfutables. Quant au deuxième volet de la mission que Dieu nous a confiée, celui de remplir la terre, n'est-il pas magnifique aussi? Qu'en pensez-vous, Clint et Rebecca, Rui et Anna, Alex et Olga? Septième jour, chapitre 2, verset 2 à chapitre 2, verset 3.
Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée.
Jusqu'ici, Dieu avait béni spécifiquement les créatures du cinquième jour, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et l'homme et la femme du sixième jour. Maintenant, au septième jour, la bénédiction s'étend à tout le jour, c'est-à-dire à toute la création qui vient d'être achevée. Dans le cours des six premiers jours, Dieu a anticipé sur plusieurs points concernant l'homme, sur son langage, nommant certaines choses avant le sixième jour, sur les fêtes religieuses aussi, prévoyant que les astres en marquent les temps. En ce septième jour aussi, Dieu anticipe sur ce que sera le quatrième commandement du Décalogue. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Commandement qui sera explicitement fondé sur le repos, la bénédiction et la sanctification dont il a été l'auteur en ce premier septième jour de la semaine. Romains 11, 36 nous fournit la conclusion adéquate à cette œuvre divine de création achevée. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Il revient donc à l'homme, placé comme représentant de Dieu dans la création, de glorifier son Dieu et de lui exprimer son entière gratitude pour un si époustouflant déploiement de bonté et de générosité. En a-t-il été ainsi? Ce sera l'objet de notre deuxième point, basé sur Romains 1, 18 à 23, que Timothée a lu avant la prédication. Deuxième point, l'homme, la créature, ni obéissant, ni reconnaissant. Adam et Ève se sont égarés dans de vains raisonnements par rapport à la gloire de leur Créateur et par rapport à sa bonté. Et chacun de nous aussi, en effet, ne serait-ce que sur le plan de la reconnaissance, combien nos manquements sont fréquents, combien nos murmures sont prompts, combien nos oublis sont nombreux. C'est pourquoi nous sommes inexcusables envers Dieu notre Créateur, pleinement bon et généreux pour nous. Hommes, frères, que ferons-nous alors que la colère de Dieu se révèle contre nos impiétés? Il n'y aurait qu'à attendre de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour un terrible jugement, si lui-même n'avait entrepris ce qu'il fallait pour nous sauver. Et ce sera notre troisième et dernier point, très bref, se référant au texte de Jean 1:1-18, qui nous a été lu. Jésus-Christ, le Fils unique, fait homme pour que Dieu nous pardonne. Troisième point, Jésus-Christ, le Fils unique, fait homme pour que Dieu nous pardonne. Pendant les 6 jours de la création, Dieu le Père a amené toutes choses à l'existence ou les a façonnées par sa parole. Les premiers versets de l'évangile de Jean dévoilent l'identité de cette parole. Il s'agit du Fils unique de Dieu. Plus encore, ces versets relatent que Dieu le Fils unique est devenu l'un des nôtres. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, verset 14. Ainsi, verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et alors, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, chez ses créatures, et les siens ne l'ont pas reçue. Et alors, et c'est exactement ici qu'il y a un de ces mais décisifs de l'Écriture, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Verset 12. Tel est l'Évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle la plus grande que nous puissions jamais entendre. Jésus-Christ, Dieu le Fils, par qui tout a été fait, accorde à quiconque croit en son nom de devenir enfant de Dieu, ce qui comprend aussi de recevoir la vie éternelle. Écoutez-moi bien, vous tous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.